affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. À l'heure où nous enregistrons cette émission, le décret promulguant une nouvelle réforme du collège a été publié. Comme vous le savez certainement, l'un des aspects les plus critiqués de cette réforme est de faire de l'histoire du monde médiéval chrétien un module désormais facultatif et non plus obligatoire comme auparavant. Voilà une nouvelle bonne raison d'écouter Canal Academy et de faire écouter Canal Academy, notamment aux plus jeunes, car sur notre antenne, bien sûr, nous continuerons à nous intéresser à cette période si riche, fascinante et foisonnante de notre histoire, avec bien sûr l'ensemble des historiens médiévistes de l'Institut. Ainsi, après avoir reçu, voici quelques semaines, Michel Zinc pour son ouvrage « Bienvenue au Moyen-Âge », nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir dans notre studio André Vaucher pour évoquer les hérésies au Moyen-Âge. André Vaucher, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien directeur de l'École française de Rome, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et vous avez publié récemment un recueil d'articles consacré justement aux hérétiques au Moyen-Âge et qui est paru aux éditions du CNRS. Avant de démarrer la plongée dans cet univers, je veux préciser à nos auditeurs qu'il n'est pas nécessaire d'être par avance passionné par les hérésies au Moyen-Âge pour être intéressé par cette émission. En effet, les hérésies au Moyen-Âge sont une merveilleuse porte d'entrée pour découvrir le monde médiéval dans son ensemble et en tout cas ce qui constituait un élément crucial de la vie et de la vie intellectuelle à cette époque, à savoir les questions de foi. Mais pour démarrer, pourriez-vous, André Vaucher, nous définir ce terme d'hérétique ? C'est un terme un peu fuyant, non ?
Oui, le français utilise le mot hérésie, qui n'est pas évident, disons, de prime abord. Ça vient d'un mot grec, aérésis, qui signifie choix. Et ça s'applique dans le domaine religieux, surtout dans le domaine doctrinal. Fondamentalement, un hérétique, c'est quelqu'un qui choisit une foi ou une voie différente de celle de la majorité de ce qu'on appelle l'orthodoxie. Donc il y a deux pôles, l'orthodoxie qui est le pôle dominant, et puis il y a des contestataires qu'on appelle les hérétiques. Voilà. L'anglais d'ailleurs a un avantage par rapport au français, c'est qu'il n'emploie pas le mot, ou il emploie peu le mot hérétique, ou heretics. Il parle de dissenters, c'est-à-dire des gens qui sont dans le dissentiment. Ce qui est préférable, enfin du point de vue de l'historien en tout cas, puisque hérétique, ça suppose déjà qu'il y a une instance qui est jugée que ces gens qui croyaient autrement étaient des mauvais croyants. Voilà. Donc en ce sens, l'anglais qui est neutre, dissentiment, est préférable au français, mais comme nous parlons français, il faut bien employer le mot hérésie. Cela dit, mon livre s'appelle « Les hérétiques au Moyen-Âge » parce que justement, je n'ai pas mis, comme on l'avait fait précédemment, l'accent uniquement ou principalement sur les doctrines, ce qu'il faut croire ou pas croire, ce qui est vrai, ce qui est faux, mais sur les gens qui ont adhéré à des voies dissidentes au cours du Moyen-Âge. Voilà. Et alors évidemment, s'ils l'ont fait, c'est pour des raisons de foi en général, mais pas seulement, aussi pour des raisons sociales parfois, politiques même. Et donc, il faut replacer les hérétiques dans un contexte plus large que celui de l'adhésion à un corps de doctrine.
Les hérétiques, on découvre en parcourant les différents chapitres de votre ouvrage qu'ils sont extrêmement variés. Est-ce que vous pouvez nous en donner une première approche, un premier spectre ?
Oui, bien sûr. Bien, il y a eu beaucoup d'hérésies dans les premiers siècles du christianisme. Il suffit de penser au donatisme, par exemple, autour de Saint-Augustin, ou plus connu, les manichéens, qui disaient qu'il y avait à l'origine du monde deux principes et non pas un seul Dieu, comme disaient les chrétiens, etc. Donc ça a été, pendant trois siècles à peu près, entre le 3e et le 5e siècle, une époque d'effervescence hérétique. Et puis, en Occident en tout cas, puisque mon livre concerne les sociétés occidentales, l'Occident médiéval, ça se calme. Pourquoi ça se calme ? Parce que nous sommes à une époque de christianisation en profondeur, je dirais d'abord superficielle et puis en profondeur, entre, disons, 500 et 1000. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les populations qui habitaient l'Occident, surtout les populations rurales, se christianisent peu à peu. Mais c'est un christianisme qui est encore très superficiel, enfin, en tout cas, à base essentiellement de pratiques. Voilà. Les hérésies proprement dites commencent à fleurer, à se manifester autour de l'an 1000. Alors non pas qu'il faille assigner à ce chiffre 1000 une valeur magique, mais parce que on est à la fin du 10e, début 11e, à une période où précisément les habitants de l'Occident ont assez bien intériorisé le christianisme pour pouvoir commencer à se poser des problèmes et en particulier faire la comparaison entre ce qu'ils voient autour d'eux, l'Église, les prêtres, les moines, et puis ce qu'il y a dans les textes, les évangiles et les exigences que cela implique. Voilà. Donc la grande époque des hérésies médiévales, c'est 11e, 15e. Mais à l'intérieur de cette période, il y a des différences sensibles. Au début, disons 11e, 12e, ce sont des petits groupes minoritaires qui peuvent être extrêmement influents et intéressants d'ailleurs, mais qui ne concernent pas de larges secteurs de la société. Le fait nouveau à partir de la fin du 12e et surtout au 13e siècle, c'est une inflation des mouvements hérétiques qui finissent par, dans certaines régions, comme le Languedoc par exemple en France, mais pas seulement, l'Italie du Nord aussi, par devenir véritablement imposant, important. Et à la fin du Moyen-Âge, alors là, c'est une période plus difficile à caractériser, parce que d'un côté, les hérésies disparaissent dans une bonne partie de l'Occident, à la suite de l'action de l'Inquisition, mais aussi d'autres, de l'évolution de l'Église. Mais en revanche, au XVe siècle, on voit apparaître des mouvements nationaux, comme les Hussites en Bohême, par exemple, qui sont vraiment des mouvements très populaires, populaires au sens de ayant une base sociale et très large, qui peuvent toucher une bonne partie d'un peuple, par exemple, comme c'est le cas pour les Tchèques au XVe siècle. Voilà, donc je dirais trois phases qui ont chacune leurs caractéristiques propres.
Alors, pourquoi ne pas faire de la chronologie ?
Voilà.
Commençons par la première.
Alors la première, eh bien, elle est donc caractérisée par l'émergence qui est signalée par des chroniqueurs, par des ecclésiastiques. À l'époque, tous les auteurs, jusqu'au XIIe siècle, tous les auteurs de chroniques sont des clercs, sont des gens qui écrivent en latin et gens d'église. Donc ces auteurs nous signalent qu'ici ou là, à tel endroit, sont apparus des hérétiques, enfin, des gens qu'ils appellent hérétiques, et sur lesquels ils nous donnent des renseignements qu'il faut évidemment prendre avec un certain recul, mais enfin qui décrivent l'apparition de sectes dissidentes.
D'autant qu'à ce moment-là, les enjeux sont encore faibles.
Voilà, donc on en parle, mais on en parle en passant, c'est pas majeur, mais il y a quand même...
Parce qu'il y a des traits communs entre ces
Il y a des traits communs entre ces mouvements, donc ils sont des mouvements, je dirais, ceux du XIe siècle surtout, des mouvements spiritualistes, c'est-à-dire qu'ils réagissent, et ce sont des gens qui réagissent contre la matérialisation du spirituel, contre le fait, par exemple, que... On bénissait des maisons ou des bateaux. Enfin, ce sont des gens qui contestent cette implication trop concrète du sacré dans la vie de tous les jours. Et pour qui la religion devrait être quelque chose de très spirituel. Donc c'est intéressant parce que c'est une réaction significative contre justement le fait que l'Église est en train de s'installer dans le monde et de gérer de plus en plus les rapports sociaux. Voilà.
Alors c'est intéressant parce que dans l'imaginaire commun, en tout cas dans le mien, je pouvais être amené à penser qu'au contraire, dans la première phase... Les hérétiques étaient peut-être des gens qui restaient attachés à d'autres formes de foi, notamment dans les campagnes, à des rites issus de l'ancien paganisme. Et on découvre que pas du tout, c'est plutôt le contraire.
Non, ce ne sont pas des gens qui sont attachés à des formes païennes, pas du tout, ou en tout cas très peu. autant qu'on puisse le savoir, bien sûr, puisque les textes à cette époque ne sont pas innombrables, ce sont plutôt des gens qui se sentent déphasés par rapport à l'évolution de l'Église. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas des hérétiques en général, à toutes les époques. Si vous prenez, par exemple, les hérétiques d'aujourd'hui, si je peux dire, du point de vue de l'Église catholique, par exemple, les tenants de Mgr Lefebvre et ce qu'on appelle les intégristes, sont des gens qui déplorent le fait qu'à un certain moment, l'Église ait évolué. Ils ont refusé cette évolution et donc, du fait que la majorité, l'orthodoxie, a adhéré au changement, eux qui refusent le changement se trouvent en porte-à-faux et deviennent hérétiques. Eh
bien, oui, c'est un peu comme le vieux croyant en Russie.
Voilà, exactement. Donc, je ne dis pas que c'est un refus d'évoluer, mais c'est une réaction contre le fait que malgré tout, le christianisme, bien sûr qu'il existe depuis 2000 ans, mais il a subi de nombreuses mutations et il a dû s'adapter à diverses formes de société, de mentalité, etc. Et donc, ceux qui trouvent que cette adaptation va trop loin...
Ils en appellent plutôt la pureté des origines.
Ils sont un jour ou l'autre, marginalisés. Voilà. Alors la deuxième phase, là, elle est différente, c'est-à-dire à partir de la fin du milieu du XIIe siècle, la plupart des mouvements contestataires, j'aime mieux le mot contestataire ou dissident que le mot hérétique, vont être provoqués par l'enrichissement de l'Église. On était à une époque où l'Église, aussi bien les moines d'ailleurs que les évêques, sont véritablement, après ce qu'on appelle la réforme grégorienne, l'Église a récupéré ses biens, ses droits, et devient une puissance seigneuriale dans le monde, avec des terres, avec des revenus, avec des serfs qui travaillent pour elle, etc. Donc, les mouvements qui se produisent à ce moment-là sont une réaction contre l'enrichissement de l'Église, qui apparaît surtout comme un pouvoir, et un pouvoir contraignant. Donc, on reproche à la papauté, par exemple, son pouvoir temporel, le fait que les papes deviennent véritables seigneurs de Rome et se constituent un état pontifical autour de Rome. On reproche aux évêques de s'enrichir en tant que seigneurs et par l'exercice de la justice, etc. Donc là, c'est les compromissions avec le monde qui font que on réagit. Alors, il y a plusieurs mouvements qui ne sont pas des mouvements coordonnés, hein, mais qui vont tous dans le même sens. Revenir aux exigences fondamentales de l'Évangile, en particulier en matière de pauvreté, et aussi de chasteté d'ailleurs, puisque beaucoup de ces clercs qui étaient riches étaient en même temps simoniaques, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire achetaient des charges à prix d'argent ou trafiquaient avec les sacrements, etc. Voilà, donc il y a une réaction contre l'enrichissement et surtout l'accès de l'Église à la puissance temporelle, qu'elle devienne une force prégnante dans la société qui impose ses lois, en particulier c'est l'époque où l'Église impose une nouvelle discipline du mariage. Et ça, c'est ressenti très mal par beaucoup de gens, pas seulement dans les milieux populaires, mais surtout même dans les milieux seigneuriaux, puisque bon, le mariage n'était pas une nouveauté, mais à partir du moment où on dit que l'Église insiste pour que le mariage
ait un caractère sacré,
devient un sacrement, ça devient beaucoup plus difficile de se dégager des liens du mariage lorsqu'on en a envie ou lorsqu'on y est obligé. Voilà, donc des réactions de ce type qui se multiplient et qui aboutissent donc à deux grands mouvements. L'un, c'est ce qu'on appelle les Vaudois. Alors, le nom est un peu... peut paraître étonnant, mais ça n'a rien à voir avec le canton de Vaud en Suisse. Ce sont les disciples d'un certain Valdès ou Vaudès, qui était un marchand de Lyon, qui, vers 1170, se convertit, disons, à la vie évangélique, vend liquide ses affaires, ses biens, et se met à prêcher l'Évangile de village en village, et bientôt suivi, accompagné de disciples. Et l'Église prend ombrage de ce qui, au départ, était simplement une démarche évangélique, parce que cet homme qui est un simple laïc, donc qui n'a pas fait d'études, qui ne sait pas le latin, ou pas bien en tout cas, se met à prêcher comme s'il avait une autorité, comme s'il avait été autorisé à le faire, alors que l'Église, à ce moment-là, au contraire, renforce, accroît, met l'accent sur le monopole des clercs. Seuls les clercs, les gens mandatés par les évêques, ont le droit de prêcher et les laïcs ne l'ont pas.
Mais là, si je ne me trompe pas, lui n'est pas en rupture. Il ne remet même pas en cause le droit des clercs à prêcher également, mais il le revendique simplement pour lui-même.
Voilà, exactement. Il ne conteste pas l'organisation de l'Église telle qu'elle est, mais il...
Ni même la doctrine.
Il affirme que tout baptisé, au fond, qui vit conformément à l'Évangile, a le droit d'annoncer l'Évangile, et ça fait problème. Il est condamné, finalement. Il y a des débats, d'ailleurs, au sein de l'orthodoxie, disons. Il y a des gens qui le défendent, il y en a qui le condamnent, et c'est le parti dur, disons, qui l'emporte, et les Vaudois sont excommuniés et poursuivis ensuite comme des hérétiques. Et puis l'autre, alors c'est ceux qu'on appelle les cathares, ce qui est un mot un peu trompeur, parce que cathare, c'est un mot savant, qui vient du grec, il est pur. Ce sont là aussi les ecclésiastiques de l'époque qui ont donné ce nom à des mouvements qui ont commencé d'ailleurs... dans la région de la Rhénanie, l'actuelle Belgique, etc. Et puis qui s'étendent ensuite au Languedoc français, à l'Italie du Nord. Donc là, ce sont des contestataires d'une autre sorte, donc, qui, là aussi, attaquent l'Église pour son enracinement, son trop poussé dans le siècle, dans le monde, et en particulier dans le midi de la France. On lui reproche sa discipline trop sévère dans le domaine du mariage, justement, mais aussi qui lui reproche une religion trop cléricale, trop peu spirituelle et inutilement compliquée. Ceux qu'on appelle les cathares pensent qu'il y a un seul sacrement utile, c'est le consolamentum, c'est une sorte d'absolution donnée par des parfaits, c'est-à-dire des gens qui ont une vie morale parfaite, à la veille de la mort. Voilà. Donc ce n'est pas un anti-christianisme, c'est un autre christianisme, un christianisme différent. Mais les cathares sont jugés particulièrement subversifs, et donc à partir des années 1215-1230, l'Église catholique, la papauté, lance une véritable campagne de répression de ces hérésies, et surtout du catharisme, avec la croisade des Albigeois en France, et puis en 1233, la création de l'Inquisition, donc confiée aux Dominicains, qui sont des prédicateurs, des hommes de doctrine, et qui vont aller porter la contradiction et dans les régions touchées par ces mouvements. Voilà.
Parce que si je ne me trompe pas, dans la première phase, l'Église s'inquiète finalement assez peu, parce que les hérésies rencontrées ici ou là sont de faible ampleur et des épiphénomènes, tandis qu'avec l'émergence du catharisme, on est face à un mouvement puissant, et on a les hommes d'Église ont le sentiment qu'ils risquent d'être emportés.
Tout à fait, il y a vraiment une espèce de panique, même dans les années 1230, parce que il y a une lettre d'un pape de l'époque, Grégoire IX, celui qui a créé l'Inquisition et qui écrit aux évêques, une encyclique qui leur dit « Mais si on continue comme ça, si on ne fait rien, au fond, ces gens-là vont prendre le pouvoir, enfin, ils vont devenir plus nombreux que les bons catholiques, et donc il faut absolument réagir, et réagir violemment. Voilà. »
Il faut peut-être toutefois redéfinir ce qu'est l'Inquisition médiévale, qu'on confond souvent, comme vous le dites, avec l'Inquisition espagnole, et qui est d'une nature et de pratique quand même différente. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ça?
Alors l'Inquisition, donc créée en 1232-33 par le pape Grégoire IX, est une institution d'église, qui vise à donc enquêter partout où il y a où on signale la présence d'hérétiques, de façon à les détecter et, si possible, à les empêcher de nuire. Voilà. Donc, l'Inquisition est confiée à l'ordre des frères prêcheurs, des dominicains, et dans une moindre mesure, en Italie, uniquement, dans certaines régions, aux franciscains. Mais enfin, c'est, en gros, la plus grande partie de la chrétienté sont les dominicains, parce que ce sont des principe de bons théologiens, des gens qui connaissent bien la doctrine. Et donc, ils vont essayer de détecter, disons, que les réseaux, qui sont plus ou moins clandestins, en général clandestins, qui essayent d'échapper à l'Église ou qui font de la propagande pour leurs croyances. Donc, l'Inquisition a évidemment très mauvaise réputation, dans la mesure où elle agit surtout par dénonciation. C'est-à-dire que Les inquisiteurs ne sont pas des commissaires de police, donc ils attendent, ils ont besoin qu'on vienne leur dire qu'ici ou là, il y a des personnes ou des groupes qui ont des agissements contraires aux croyances de l'Église. Et à ce moment-là, ils organisent un véritable procès, ils font comparaître les accusés, ils font venir des témoins, et donc on a des procès d'inquisition qui se succèdent, et qui implique, qui finissent par impliquer parfois des dizaines, voire des centaines de personnes. Le plus connu, c'est celui qui a donné naissance, qui a été la source du livre de Leroy Ladurie sur Montaillou. Montaillou, c'est un village occitan, comme l'indique le titre du volume, dans l'Ariège, mais qui... le livre a été possible parce qu'il existe une source formidable qui est le livre de l'inquisiteur Jacques Fournier, qui avait fait un travail extrêmement précis, pointu, dans toute la région, et qui ensuite est devenu pape sous le nom de Benoît XII. Donc c'est un texte particulièrement fameux et un personnage de tout premier plan. Donc, par l'intermédiaire de ces enquêtes, on met en évidence justement des réseaux, des complicités, on arrête les gens. Et alors, contrairement à une légende, le but de l'Inquisition n'était pas de tuer, de faire disparaître les hérétiques, c'était de les convertir. Donc, alors on essaie d'abord de les faire abjurer. Et s'ils refusent, l'inquisiteur les met en prison. Et finalement, bon, ceux qui s'obstinent dans leurs croyances et qui refusent absolument d'abjurer, de revenir à l'orthodoxie catholique, eh bien, sont condamnés. Enfin, ils ne sont pas condamnés officiellement, là, il y a certaines hypocrisies, on les livre aux bras séculiers, c'est-à-dire au roi ou au comte local, et à charge pour celui-ci de les exécuter, de les faire disparaître, puisque l'Église n'a pas le droit de verser le sang. Voilà, du point de vue juridique, l'Église se lave les mains, mais quand même transmet l'hérétique et son dossier à la justice civile, dirions-nous aujourd'hui, qui se charge de résoudre le problème. Mais la mort de l'hérétique n'est pas l'objectif de l'inquisiteur. Ce qui l'inquisiteur a réussi son coup, si je peux dire, lorsqu'il convertit l'hérésie, l'hérétique.
Se repent.
Était-il converti intérieurement? On ne le saura jamais, mais en tout cas, formellement, il abjure. Voilà. Alors, ça, c'est le premier instrument de lutte contre l'hérésie. Et l'autre instrument, qui est, à mon avis, d'ailleurs plus efficace, c'est l'action de nouveaux ordres religieux, qu'on appelle les ordres mendiants, justement les dominicains et les franciscains, qui apparaissent au début du XIIIe siècle et qui vont être utilisés par l'Église comme instrument de christianisation des masses, parce que l'hérésie révèle surtout qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées, qui sont baptisés, qui vont peut-être à la messe, mais qui ne sont pas profondément chrétiens, qui ont des pratiques superstitieuses ou des croyances aberrantes. Voilà. Donc l'action des ordres mendiants, surtout dans les villes, va viser à, donner plus de solidité aux convictions religieuses des chrétiens. Et ça va aboutir quand même, au bout d'un certain laps de temps, au bout d'un siècle, à un recul de l'hérésie qui est très sensible à partir de la fin du XIIIe siècle.
Ce qui m'a frappé à propos des ordres mendiants franciscains et dominicains, c'est que au-delà de leur capacité à instruire, à se lancer dans des débats théologiques, parce qu'en face, les hérétiques sont souvent des gens extrêmement formés eux aussi. Ouais. D'ailleurs, si on rentre en hérésie, c'est parce qu'on a des préoccupations de cet ordre, souvent, j'imagine, c'est qu'ils apportent aussi une réponse positive et une réponse aux aspirations qui peuvent mener à l'hérésie.
Tout à fait.
Parce que ce sont des ordres mendiants, ils font...
D'abord, vous avez bien mis l'accent là-dessus, vous avez eu raison. D'abord, le premier point, c'est la pauvreté, parce que justement, une des choses que les contestataires reprochaient plus à l'Église, c'était son enrichissement, c'était son installation dans le monde, dans le pouvoir. Et donc, les ordres mendiants, de ce point de vue-là, échappent, au moins dans un premier temps, à toute critique, parce qu'ils sont vraiment pauvres, ils vivent de mendicité, et ils pratiquent l'humilité, ils refusent absolument tout pouvoir de type seigneurial, ils n'ont pas de terre, ils ne rendent pas la justice, donc ils sont indiscutables.
Ils ressemblent un petit peu aux hérétiques. Si je voulais faire de la provocation, je dirais que en fait, ce qui les distingue, c'est le conserve l'obéissance et un lien direct à Rome.
Voilà, ils reprennent au fond, parce que vous savez, l'hérésie, l'histoire de l'hérésie, c'est au fond l'histoire. Il ne faudrait jamais dissocier l'histoire de l'hérésie de celle de l'orthodoxie. C'est-à-dire que les hérésies se multiplient quand l'orthodoxie se durcit ou se ferme. Et en revanche, il y a des périodes comme le XIIIe siècle où l'orthodoxie s'ouvre à de nouveaux mouvements évangéliques, apostoliques, etc. Et à ce moment-là, l'hérésie est plutôt en recul parce qu'une partie des demandes religieuses des gens se trouve à se satisfaire à l'intérieur de l'Église elle-même. Et donc, on n'a pas besoin d'adhérer à des sectes contestataires. Voilà. Et puis après, alors il y a toutes sortes de variations de ce point de vue-là dans les rapports entre hérésie et orthodoxie. Mais il faut toujours prendre en compte les deux pôles, parce que sinon...
l'un se définit par rapport à l'autre.
Voilà.
Il y a un passage très intéressant dans le livre, c'est qu'après être venu, enfin je crois que c'est après être venu à bout du mouvement cathare, en tout cas pour l'essentiel, parce que je crois qu'il subsiste encore un peu en Italie ou en Italie du Nord.
Oui, il y a des survivances, mais enfin c'est marginal.
Eh bien, le pli étant pris de vouloir catégoriser, puisque ce sont des gens de lettres, et donc ils se mettent à essayer de définir ce qu'est un comportement hérétique ou une doctrine hérétique, et à force de vouloir la définir, eh bien, ils trouvent de nouvelles catégories et une sorte d'extension du domaine de l'hérésie qui peut être un miroir déformant.
Voilà. Alors, la dernière partie du Moyen-Âge, effectivement, est très confuse pour nous, mais aussi probablement pour les gens qui ont vécu à cette époque. Parce que, comme vous disiez, les inquisiteurs, et à force de battre la campagne, c'est le cas de le dire, à la recherche des hérétiques, sont amenés à rencontrer des choses, des gens qui ont des comportements peu orthodoxes, dirais-je. Ainsi, ils se trouvent en contact avec la magie. Il y a beaucoup de pratiques magiques, et pas seulement dans les campagnes. Des superstitions, il y a des refus d'obéissance à l'Église en tant que pouvoir politique. Bref, il y a aussi les Juifs, dont certains qu'on commence à considérer parfois comme des hérétiques, alors que c'est tout à fait autre chose. Bref, on entre dans une grande confusion, je dirais terminologique, mais en même temps mentale. Par exemple, à partir du XIVe siècle, on poursuit des gens, des personnes ou des groupes parce qu'ils ont refusé d'obéir à la papauté. Et on les condamne comme hérétiques parce qu'ils ont désobéi à la papauté sur le plan politique, pas sur le plan religieux. Parce qu'ils ont une politique contraire à celle du Saint-Siège en Italie pour des problèmes territoriaux ou autres.
Mais ce sont des manœuvres.
Donc il y a une espèce d'élargissement jusqu'à l'absurde du concept d'hérésie de façon à mieux venir à bout des adversaires. Voilà, comme ces adversaires du pouvoir temporel, en particulier de la papauté et de l'Église, se multiplient, eh bien, le nombre des hérétiques apparemment se multiplie, mais c'est une apparence. C'est simplement l'Église qui utilise de façon de plus en plus large cette notion et finit par l'étendre à l'infini.
Oui, si la loi punit un nombre plus important de comportements, le nombre des délits augmente aussi.
Exactement,
mécaniquement.
Exactement,
oui.
Tout à fait cette logique-là.
L'autre point qui est très surprenant, parce qu'il va un peu à l'encontre des préjugés que nous pouvons avoir, c'est que vous faites un lien entre justement un mouvement, c'est peut-être lié à ce qu'on vient de dire, de rationalisation et d'extension du domaine de l'hérésie. C'est-à-dire qu'assez curieusement, on pourrait croire que la répression des hérétiques, c'est plutôt le fait de gens un peu rustres ou dominés par des préjugés. Pas du tout. C'est au moment où ils montent dans la volonté de rationalisation que l'extension de l'hérésie, du domaine de l'hérésie croît.
Oui. Mais ça, c'est justement lié au fait que... disons l'hérésie, enfin l'Inquisition plutôt au XIVe, XVe, mais de plus en plus entre les mains de spécialistes, qui sont à la fois des juristes, mais aussi des théologiens, je dirais qui sont, au sens où on place ce mot aujourd'hui, des intellectuels. Et ces intellectuels appliquent ou cherchent à appliquer dans la réalité des schémas qui sont des schémas idéologiques. Et à ce moment-là, ils se trouvent justement confrontés à des réalités qui sont très éloignées de ce qu'eux considèrent comme l'orthodoxie. Ils découvrent, par exemple, qu'il y a dans les campagnes des femmes qui rendent des services aux gens ou au contraire leur nuisent, ce qu'on appelle les sorcières. Et ils sont absolument sidérés par ces pratiques que jusque-là, qui existaient, elles n'étaient pas nouvelles, mais on ne s'y était pas intéressé. On disait, ce sont des simples d'esprit, c'est les pauvres paysans qui sont vraiment limités. Et tout d'un coup, on commence à prendre au sérieux ces phénomènes et à s'y intéresser de façon d'ailleurs extrêmement dure. Commence une véritable chasse aux sorcières à partir du XVe siècle, hein, parce qu'on considère... alors, justement, c'est là-dessus que les intellectuels de l'Inquisition focalisent en disant « Mais si ces gens font ça ou ces femmes, hein, c'est parce qu'elles sont en rapport avec les démons. Et donc, si elles sont démoniaques, c'est qu'elles ont fait un pacte qui leur donne une puissance sur les gens, etc. » Et donc, il faut absolument extirper tout ça. Et c'est à ce moment-là qu'on voit se développer une répression violente de la sorcellerie, oui, qui est là aussi intégrée de façon, pour nous, tout à fait artificielle, mais à l'époque très, très vive, très ressentie, à l'intérieur du cadre large de l'hérésie.
Dans un esprit proche, ce qui est très curieux, cette époque-là, c'est l'époque où il y a quand même la constitution progressive d'un État plus moderne, plus centralisé, où on voit plutôt d'habitude cette période comme une période de progrès, où le royaume de France se constitue, une administration se met en place, on a l'impression qu'on va sortir dans l'imagerie, hein, des ténèbres pour entrer dans un monde plus rationnel, et on se rend compte que c'est à ce moment-là qu'il y a une explosion incroyable de violence,
oui,
et de brutalité directe contre des gens qui ne l'avaient même pas cherché.
Absolument.
À rebours de la période précédente.
Il y a quelque chose de paradoxal là-dedans, mais en apparence seulement, parce que justement, l'Inquisition a mis en éveil, mis en garde aussi les pouvoirs politiques qui se sont dit qu'au fond, ils pourraient très bien se saisir de cet appareil de répression à leur profit. Et on voit ça très clairement, par exemple, en France, lorsque... après de nombreuses tentatives de la part de l'Inquisition de réduire les Vaudois du Dauphiné, donc des vallées des Alpes où ils s'étaient réfugiés, on leur avait prêché, on avait envoyé des gens pour essayer de les convertir, ça n'avait pas donné grand-chose. Eh bien, à un certain moment, le pouvoir royal prend ça en main et lance sa propre Inquisition. Des clercs qui étaient mandatés par le roi et qui, eux, vont s'appuyer sur des forces militaires bien précises, sur des gendarmes, et vont faire régner la terreur dans ces vallées alpines jusqu'au moment où ou bien les Vaudois se seront convertis ou bien ils se seront enfuis ailleurs. Et donc, le pouvoir politique prend conscience à ce moment-là que s'il veut être maître chez lui et faire régner sa loi, la loi du pouvoir royal, eh bien, il faut aussi qu'il joue le jeu de l'Inquisition. Voilà. Et donc, les monarchies nationales deviennent inquisitrices. Et le comble de ce processus va être atteint au XVIe siècle en Espagne, enfin XVIe, même une partie du même XVIIe, lorsque va se développer une inquisition la plus terrible qui soit, en Espagne et au Portugal, mais qui est une inquisition royale. C'est une inquisition qui émane des pouvoirs publics, une sorte de délégation de la part de l'Église. Mais ça permet au pouvoir royal, d'une part, de contrôler, ce qu'on dirait aujourd'hui, le mouvement des idées, mais surtout de s'attaquer à ses adversaires, de le confisquer leurs biens sous prétexte d'hérésie, etc. Donc... loin de diminuer, la répression n'a fait que s'accroître dans la mesure où, l'État a pris dans beaucoup d'endroits la suite et même pris la main dans le domaine de la répression de l'hérésie.
Et avec la puissance qui est la sienne.
Absolument.
Dans ce rapport entre orthodoxie, hérésie, société dominante, déviance... et autres, on n'a pas encore abordé les arguments utilisés pour s'en prendre à ces gens. Alors on a l'impression d'osciller au fil du temps, ou même conjointement, de les accuser de mots ou de pratiques complètement contradictoires. Ça, un coup, ce sont des suppôts de Satan qui passent leur vie à forniquer, qui se livrent aux plaisirs les plus abjects, allant jusqu'à ensuite brûler dans des sacrifices rituels les enfants nés de leurs orgies. D'accord. Pour les redistribuer. Et simultanément, on leur reproche leur refus du monde, leur dualisme, leur manichéisme, leur chasteté exagérée. Est-ce que vous pouvez nous démêler tout cela ?
Alors ça aussi, c'est pas facile. Et dans les sources, on a bien du mal à s'en dépêtrer quand on essaie de faire un travail historique. En effet, on a simultanément les accusations les plus contradictoires. D'un côté, on leur reproche. D'abord, on reproche toujours aux hérétiques, ou en tout cas aux ceux qu'on désigne comme tels, de faire des conciliabules, c'est-à-dire de faire des sociétés secrètes. On dirait aujourd'hui, ce sont des gens qui ne sont pas francs, ils sont hypocrites, ils se cachent. Donc déjà ça, c'est un mauvais signe. En plus, alors certains pratiquent l'ascèse de façon excessive, ne mangent plus rien, ont des régimes alimentaires absurdes, et d'autres, au contraire, apparemment, sont des jouisseurs effrénés.
Et sur le premier point, j'ai découvert que même la pâleur excessive...
Voilà, la pâleur devient, dans certains
suspect.
Cas, un indice d'hérésie. Alors, premier point qui permet quand même d'y voir un petit peu clair, les ecclésiastiques de l'époque, donc ceux qui étaient chargés de... se chargeait de réprimer l'hérésie, était imbus de lecture patristique, et en particulier, ils avaient lu saint Augustin. Or, saint Augustin parle beaucoup des hérétiques, puisqu'il y en avait beaucoup de son temps, et en particulier des manichéens. Il avait été lui-même, d'ailleurs, manichéen avant de devenir un bon catholique, donc il savait très bien de quoi il parlait. Et dans saint Augustin, alors on trouve et puis chez un certain nombre d'autres pères de l'Église, mais Augustin était l'auteur le plus lu au Moyen-Âge, on trouve des descriptions vraiment atroces des communautés manichéennes dans lesquelles il se serait passé des horreurs sur le plan sexuel, etc. Et donc, à la mesure où on ne savait pas grand-chose sur ces mouvements hérétiques qu'on découvrait au XIe ou XIIe siècle, eh bien, les clercs leur ont appliqué, de façon un peu automatique, comme une espèce de grille de lecture, ce qu'ils trouvaient chez saint Augustin sur ces gens-là. C'est-à-dire, ah, ils sont hérétiques, donc ils doivent forcément
de la même lignée.
Forniquer, manger leurs enfants, enfin, des choses abominables. Voilà. Donc, ça fait partie, je dirais, presque de l'imaginaire clérical de l'époque. Si on est hérétique, on est forcément immoral. Alors, cette immoralité peut prendre des formes différentes, mais c'est quand même toujours une constante. Voilà. Donc, bien voir ça, ce que nous disent les clercs de l'époque, pendant trop longtemps, on a pris ça au premier degré. On s'est dit, ah, vraiment, c'est terrible. Et maintenant, les historiens qui travaillent dans ce domaine depuis un certain nombre d'années ont tendance, et à juste titre, à prendre leur distance vis-à-vis de ces discours, en disant que ce sont des discours stéréotypés qui visent à ramener l'hérétique ou le contestataire que tel ou tel clerc a pu rencontrer, le ramener à un modèle stéréotypé qui est justement influencé par saint Augustin ou par d'autres textes des origines chrétiennes. Voilà.
Vous pensez que c'était un discours intériorisé et qu'il croyaient eux-mêmes, c'est pas une façon de désigner à la vindicte ou de justifier les traitements qui leur sont infligés.
Je pense qu'ils y croyaient eux-mêmes, enfin, ou en tout cas, ils avaient fini par se persuader de la réalité de ces choses. Peut-être parce qu'ils ont mal aussi interprété certains comportements. Par exemple, on a des textes sur les cathares où on voit que on nous dit ils pratiquaient l'amour libre en quelque sorte, pas. Et ils faisaient des orgies, ils se réunissaient dans des maisons, ils échangeaient leurs femmes dans l'obscurité, etc. Enfin bon, il y a des descriptions extraordinairement précises d'ailleurs chez ces auteurs. Alors, il se peut qu'ils aient mal compris aussi des pratiques sociales qui, à l'époque, n'étaient pas choquantes. Enfin, le fait que les relations entre hommes et femmes dans le Languedoc du XIIe siècle ne se limitaient évidemment pas à la relation conjugale. Et donc, il y avait des...
Certainement ailleurs non plus, d'ailleurs.
Il y avait des seigneurs qui avaient des véritables harems, comment dirais-je, aujourd'hui. Voilà, et donc, ils ont interprété ça
comme
une doctrine, alors que c'était des pratiques sexuelles, comme on dirait aujourd'hui, pratiques sexuelles qui peuvent être déviantes ou pas, c'est pas le problème, mais qui étaient bien ancrées dans les usages locaux. Voilà. Alors... Autre problème qui pouvait aussi faire devenir hérétique, c'est qui a joué l'adhésion de certains milieux à un mouvement hérétique, c'est le problème du prêt à intérêt, puisque l'Église, et de façon générale, disons, la morale économique, l'Église avait interdit sévèrement à partir du XIIe siècle le prêt à intérêt, considérant que c'était un acte contraire à la charité, qu'entre chrétiens, on doit s'entraider et s'entraider gratuitement. Donc, si quelqu'un demande à un autre chrétien un intérêt pour l'argent qu'il lui prête, eh bien, c'est un voleur, c'est un...
Voilà.
Mais bon, alors ça a fonctionné à peu près comme ça jusqu'au XIIe siècle, parce qu'on était dans une économie assez stagnante, assez fermée, essentiellement agricole, fondée sur le troc, etc. Donc, il n'y a pas trop de problèmes. À partir du moment où on entre au XIIe siècle, il y a une renaissance du commerce, des échanges en Méditerranée, y compris du grand commerce en Orient, etc. Il est évident que si on voulait se procurer du capital, le faire fructifier, acheter des bateaux, investir dans des cargaisons, c'était plus possible de ne pas pratiquer le prêt à intérêt d'une certaine façon. Ouais. Voilà. Donc l'Église l'a réagi très, très brutalement, et c'est justement... intéressant de voir qu'au XIIIe siècle, les ordres mendiants qui ont une nouvelle réflexion sur ces choses, parce qu'ils sont en contact fréquent avec des marchands et même avec
dans le nord de l'Italie aussi, j'imagine,
même avec des usuriers à Paris, par exemple, on a des sermons aux usuriers. Alors évidemment, on leur dit restituer les biens mal acquis, etc. Mais d'un autre côté, les mendiants font aussi passer un message à l'Église en disant attention, celui qui prête son capital. Si c'est par exemple pour une opération navale qui implique commerce maritime, il y a un gros risque parce qu'à l'époque, un bateau sur trois n'arrivait jamais au port. Donc celui qui investit là-dedans, il prend un risque et donc il faut qu'il soit aussi couvert pour son risque. Donc le prêt intérêt n'est pas systématiquement condamnable. Ouais. Donc il y a... on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est justement à travers les ordres mendiants que certaines requêtes des laïcs, de la part des laïcs, qui avaient été prises pour des démarches hérétiques, sont finalement réintégrées ou tolérées à l'intérieur de l'Église. Et on aboutira au XVe siècle avec les franciscains, la constitution de véritables établissements de crédit, ce qu'on appelle les monts de piété, dans lesquels on vient déposer des objets, du prêt sur gage, et on reçoit de l'argent et en même temps l'établissement prélève un certain intérêt, non pas usuraire, bien sûr, à un niveau modeste, mais enfin quand même prélève un intérêt. Oui. Donc on voit très bien l'évolution au fil des siècles de la doctrine économique, ce qui avait été à l'origine l'objet d'un rejet et qui avait pu pousser des marchands ou des citadins en général dans l'hérésie, finit par être reconnu comme valable. Voilà.
Il y a d'ailleurs un élément que vous soulignez dans la disparition progressive des hérésies, outre l'action des ordres mendiants et bien sûr de l'Inquisition, c'est l'amélioration générale de la situation au fil du temps, dans un monde où les conditions de vie s'améliorent progressivement. Les doctrines hérétiques, souvent quand même fondées sur l'ascèse, sur le sentiment que le monde est mauvais, qu'il faut s'en retirer, perdent de leur capacité de préhension sociale, en quelque sorte.
Absolument, oui. Surtout à partir du XIIIe siècle, on entre quand même, dès le XIIe, mais c'est encore plus net au XIIIe, dans une économie, on dirait aujourd'hui, en croissance, et en croissance assez rapide jusqu'au début du XIVe, aussi bien dans le domaine agricole que dans le domaine des échanges, etc. Donc, le monde n'est plus... ça ne veut pas dire que c'est un monde qui n'avait pas de problème ou qui n'était pas violent, mais le monde n'est plus globalement une vallée de larmes. Et donc, toutes les tendances religieuses ou idéologiques qui insistaient sur le fait que le monde était mauvais, fondamentalement, la chute, enfin bon, qui était d'un pessimisme sombre, se sont trouvées un peu dévaluées, disons, et moins séduisantes qu'un siècle avant, où on était encore dans la misère noire. Voilà. Donc il y a effectivement une évolution. Et puis il y a des nouvelles revendications qui apparaissent aussi. Il y en a qui disparaissent, il y en a qui apparaissent. Par exemple, à la fin du Moyen-Âge, une des grandes revendications qui conduit à l'hérésie, enfin, qui fera que certains mouvements seront condamnés comme hérétiques, qui nous, aujourd'hui, nous paraît tout à fait légitime, c'est l'utilisation de la langue vulgaire, de la langue du peuple, dans la vie religieuse. Parce que ceux qu'on appelle les hussites, les tchèques, qui sont révoltés contre l'Église, et qui ont été condamnés comme hérétiques et poursuivis par toutes sortes de croisades tout au long du XVe siècle, demandent surtout à pouvoir célébrer leurs offices en langue tchèque et plus en latin, qui pour eux est une langue complètement incompréhensible. Ils demandent que les laïcs, il y a aussi une notion de promotion des laïcs, ces gens-là demandent que les laïcs puissent communier sous les deux espèces, le pain et le vin, pas seulement le prêtre, puisque seul le prêtre pouvait communier sous les deux espèces. Donc eux demandent que tous les chrétiens baptisés, quels qu'ils soient, bon, alors à l'époque c'est considéré comme hérétique par l'Église romaine, alors que ce sont des revendications qui aujourd'hui nous paraissent tout à fait normales.
Justement, d'ailleurs, je me mets à divaguer en vous écoutant. En parcourant le livre, je me suis demandé si un certain nombre de solutions, ou à l'époque c'était pas des solutions, mais de pratiques de ces communautés religieuses désignées comme hérétiques, n'étaient pas pour l'Église d'aujourd'hui un début de solution au problème de disparition du clergé. Parce que finalement, ce sont des gens qui s'organisent pour vivre leur foi sans clergé.
Absolument.
On pourrait peut-être se replonger dans cette histoire-là pour se demander si...
En particulier, en train de redécouvrir dans l'Église, disons, le sacerdoce des laïcs, le fait que des laïcs peuvent, sans être prêtres ou moines, donner un témoignage d'évangile et même animer des assemblées liturgiques, choses comme ça. Bon, ben, ça se fait ça commence à se faire de plus en plus dans la pratique, alors que ça a été refusé pendant des siècles. Bon, c'était une autre conception qui a prévalu. Mais aujourd'hui, on y revient, et on y revient dans le cadre de l'orthodoxie, et plus dans celui de l'hérésie, ce qui prouve bien la relativité de ces notions, puisque une pratique qui était considérée comme hérétique à une certaine époque peut devenir parfaitement orthodoxe quelques siècles plus tard.
D'autant qu'il y a peut-être autre chose, vous parlez de la répression qui s'inscrit aussi dans un cadre et dans un désir, non plus d'unité, mais d'uniformité. Alors finalement, ce qu'on vient de dire, c'est peut-être lié, parce qu'on est justement dans un monde où l'uniformité, les structures pyramidales, organisées, se retrouvent mises en cause par un mouvement, aussi pour des raisons technologiques d'ailleurs, où on est plus dans le réticulaire que dans le centralisé. Tout ça ouvre des perspectives finalement.
Tout à fait, effectivement. Dans la lutte anti-hérétique, il y a aussi l'idée que... il y a une seule forme de christianisme possible et valable, qui est le christianisme, disons aujourd'hui, catholique romain.
Et assis sur une organisation.
Les Grecs, les Byzantins sont considérés comme des schismatiques. Et donc, on passe souvent du schisme à l'hérésie. En tout cas, c'est une tentation à l'époque. Et il n'y a aucune tolérance, disons, pour les diversités locales ou régionales qui apparaissent comme des entorses à l'orthodoxie, alors que l'orthodoxie, elle est plutôt au niveau des croyances et pas des pratiques. Donc les questions de langue, finissent par devenir des blocages, enfin donner naissance à des blocages qui sont interprétés en termes d'hérésie, alors que c'est simplement des divergences d'ordre... ça relève de ce qu'on appelle, de façon un peu prétentieuse, l'orthopraxie, c'est-à-dire la façon correcte d'agir, mais ce n'est pas l'orthodoxie qui implique une doctrine.
Dans cet aller-retour entre le monde médiéval et le nôtre, vous l'avez brièvement évoqué, c'est les évolutions de l'historiographie de ces hérésies ou des hérétiques, qui nous en apprennent beaucoup aussi sur nous-mêmes. Est-ce que vous pouvez en repasser les différentes étapes, les débats qui l'ont animé?
Absolument. Et c'est assez instructif, effectivement, si on suit ça sur une cinquantaine d'années, les 50 dernières années, mettons. D'autant plus que, personnellement, j'ai vécu ça, si je peux dire, depuis le début, parce que j'ai été un élève de Jacques Le Goff, et que Jacques Le Goff a été un des grands animateurs au début de sa carrière de recherche sur l'hérésie. Il avait organisé à Royaumont un grand colloque qui a marqué beaucoup sur hérésie et société dans les hérésies, dans les pays, dans les sociétés industrielles, c'est ça.
Pré-industrielles.
Hérésie et société dans les sociétés pré-industrielles. Voilà. Et donc, ça, c'était à Royaumont en 1961. Donc, vous voyez, nous sommes à peu près dans les 50 ans que j'évoquais à l'instant. Alors, à l'époque, on était très marqué par le marxisme. Et le marxiste, il y avait une réflexion assez primitive, mais enfin, quand même pas négligeable, sur les hérésies dans le marxisme, parce que aussi bien Marx, mais surtout Engels, avait développé l'idée que, au fond, les hérésies médiévales et modernes aussi, jusqu'au XVIe siècle, étaient des mouvements pré-révolutionnaires. C'était des mouvements qui contestaient la société féodale, mais qui, comme le cadre mental de l'époque était un cadre religieux, eh bien, il n'était pas arrivé à sortir du religieux. C'était un mouvement révolutionnaire qui avait forcément échoué, puisqu'il n'avait pas... Il restait dans un cadre religieux, alors que les vraies révolutions, selon Marx et Engels, devaient être des révolutions sociales et politiques. Voilà. Donc il y avait cette lecture des hérésies, et on le voit encore justement dans les années d'après-guerre. Les historiens soviétiques et surtout allemands de l'Est, qui étaient très, très actifs dans ce domaine, soutenaient au fond que l'hérésie, c'était un peu la version médiévale de la lutte des classes. Alors il y avait les prolétaires qui étaient exclus ou méprisés et qui se singularisaient par rapport aux puissants en adhérant à des doctrines religieuses dissidentes. Voilà. Alors c'était un peu grossier quand même comme schéma, ça a été très discuté et on s'est assez vite aperçu que c'était faux, parce que dans les mouvements hérétiques, il y a pu y avoir des éléments populaires, il y en a eu souvent, même, mais que l'origine de la plupart des mouvements n'était pas du tout... ça ne venait pas de simples paysans ou ouvriers du textile ou autre, mais de la part ou bien de clercs dissidents en rupture de banc, ou bien d'éléments qui appartenaient vraiment aux classes dirigeantes de la société. Et en particulier des marchands, par exemple, qui n'étaient quand même pas des pauvres d'abord et qui souvent... était plutôt dans l'élite sociale que dans le prolétariat. Donc, à partir des années 70, cette espèce de dogme, lecture marxiste des hérésies était de plus en plus contestée. Alors justement, le Goff et l'école des Annales ont pris un peu leur distance vis-à-vis de ce marxisme pur et dur, et on dit oui, non, c'est vrai, c'est pas vraiment des prolétaires, mais ce sont des marginaux. Alors les marginaux, ça c'est un grand concept, enfin, qui a été très à la mode dans les années justement 70-90.
Tout cela épouse l'esprit du temps.
Hein. Voilà. Alors il fallait valoriser les marginaux. Donc les gens qui ont été des dissidents, eh bien c'était des gens qui pensaient un peu autrement, qui étaient des non-conformistes. Qui était capable de remettre en cause l'idéologie dominante, les structures de l'Église, etc.
Une sorte de bitnikisation.
Voilà,
de
si
leur
on
éthique.
Veut. Enfin, bon, là, ça, c'est un peu caricatural, mais enfin, il y avait de ça quand même dans l'air. Quoi. Sauf que là non plus, ça, évidemment, dans certains cas, on voit qu'il y a des mouvements qui viennent, qui sont lancés par d'anciens moines, par exemple en rupture de banc. Donc, ça, c'était vraiment, on peut dire que ce sont des marginaux par rapport à l'institution. Mais l'hérésie n'est pas partie des mendiants ou des clochards. Elle est partie vraiment de gens qui appartenaient là aussi plutôt à
l'intelligentsia de l'époque.
À l'intelligentsia, voilà. Et qui n'étaient nullement marginaux. Quand, si on prend le catharisme, bien on va... Ou ce qu'on appelle le catharisme, c'est ses principaux soutiens en Languedoc, ce sont les seigneurs. Enfin, c'est le milieu seigneurial qui est violemment anticlérical, parce que l'Église était en train de récupérer les dîmes, qui étaient d'un bon rendement, et ces seigneurs, des petits seigneurs d'ailleurs, c'était le pouvoir était très fragmenté dans le milieu de la France, et ces petits seigneurs pouvaient maintenir un train de vie seigneurial, avoir un château, grâce à ces dîmes. Si le clergé devait les rendre ou les donner au clergé, ils devenaient pauvres. Donc c'était pour eux un facteur absolument décisif, mais ce n'était pas des marginaux. Et plus tard, dans les villes italiennes, les marchands, les grands marchands qui ont soutenu les mouvements hérétiques étaient des gens qui appartenaient à ce qu'on appelait le popolo, c'est-à-dire la classe bourgeoise plutôt supérieure. Voilà, donc
même pas du poujadisme, encore au-dessus.
Donc ça ne marchait pas non plus les marginaux, et on a fini là aussi par se lasser.
Et donc finalement.
Voilà, donc on arrive. Non, il y a une phase alors à partir des années 90-2000. Où on s'est dit, et c'est aussi intéressant, mais est-ce que tout ça n'est pas une invention pure et simple ? Je veux dire, est-ce que toutes ces histoires d'hérésie, est-ce que ce n'est pas simplement des règlements de compte ? La foi étant la valeur suprême dans la société médiévale, si l'on voulait, comme on dit aujourd'hui, couler quelqu'un, la meilleure façon de le faire, c'était de dire qu'il était hérétique et de le prouver. Donc, l'accusation d'hérésie aurait été un moyen pas de torpiller tous les groupes sociaux qui s'opposaient à la mainmise de l'Église sur la société. Voilà. Et tout le discours autour serait finalement une espèce d'habillage qui n'aurait aucun rapport avec la réalité. Voilà. Donc on arrivait à l'idée même d'un discours pur, un discours totalement déconnecté de la réalité, oui, la langue de bois, si vous voulez. Et c'est vrai qu'il y a une part de langue de bois dans le discours de l'Inquisition ou de l'Église vis-à-vis de l'hérétique. Mais réduire ça à un simple problème de vocabulaire ou de langue, c'est quand même un peu excessif. Donc aujourd'hui, je simplifie énormément, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais enfin, on en est un peu revenu, tout en donnant acte du fait que effectivement ces discours de l'Église sur les hérétiques ne sont pas à prendre au premier degré, comme je disais tout à l'heure, et que ce langage doit être à chaque fois examiné de très près. Mais en même temps, il n'y a pas de fumée sans feu, c'est-à-dire que on peut pas non plus inventer une hérésie comme ça pour le plaisir.
Et les cathares ont bien existé.
Voilà, il y a quand même quelque chose. Alors, il n'y a peut-être pas d'hérésie, mais en tout cas, il y a des foyers de dissidence. Il y a eu des foyers de dissidence et qui, eux, étaient motivés par, finalement, la chose la plus importante, je crois, c'est que dans la société de l'époque, dans les mentalités de l'époque, la question fondamentale, c'est celle du salut. C'est-à-dire, est-ce qu'on va être sauvé à la fin de notre vie ? Est-ce qu'on va pouvoir accéder au ciel ou à l'enfer ? Et donc, le problème que se posaient les gens vis-à-vis des institutions religieuses, c'était de savoir est-ce qu'elles vont nous permettre de le faire, notre salut. Quand ils voyaient que le clergé était complètement corrompu, que les prêtres vivaient de façon indigne, bon, bah, ils avaient tendance à penser que c'était peut-être pas dans le sein de l'Église qu'ils avaient le plus de chances d'être sauvés et qu'il valait mieux aller chez des gens qui avaient une certaine perfection morale, qui se conduisaient bien, qui vivaient une certaine pauvreté, voilà. Donc, je crois que c'est ça la considération majeure qui a pu déterminer l'adhésion ou non de l'hérésie. Mais là encore, ça varie en fonction du visage de l'orthodoxie. Si l'orthodoxie présente un visage répulsif, c'est évident qu'on allait plutôt vers les hérésies. Si l'orthodoxie est plus conforme entre ce que les gens font et ce qu'ils disent, s'il y a plus de conformité, eh bien, on va plutôt vers ceux qui sont dans l'institution. Voilà.
Merci beaucoup. Pour une dernière question, quand même, avant de terminer, qui ouvre définitivement le débat. Est-ce que dans les mécanismes de définition de l'hérésie, peut-on se servir de ceux que vous avez disséqués dans le monde médiéval pour nous prémunir de ce type de raisonnement dans d'autres sphères que celles du religieux, par exemple, aujourd'hui ?
Tout à fait. Je crois qu'il y a une permanence de ces phénomènes. En particulier, on l'a vu très bien dans le communisme, surtout le communisme stalinien, enfin, russe de l'époque d'avant 1990. Il y a une orthodoxie qui est définie par le parti, et puis il y a des gens parfois qui ont essayé d'ouvrir un peu ou de prendre des voies un peu moins rigides et qui sont... Alors là, comme par hasard, on emploie un vocabulaire religieux, on dit qu'ils sont excommuniés. Non, ils ne sont pas excommuniés puisque ça n'a pas de sens, il n'y a pas de communion dans le parti communiste, mais ils sont mis sur la touche et l'inquisition a aussi existé dans le cadre du Parti communiste sous la forme du KGB et autres institutions qui étaient chargées de liquider les opposants, les trotskistes, qui sont les hérétiques du communisme. Donc il y a une permanence. On pourrait prendre d'autres exemples dans d'autres pays, macartisme, je ne sais quoi. Mais enfin, je crois qu'on a affaire à une réalité permanente dans la mesure... quand même nuancé, dans la mesure où tous ces régimes ont une forte charge idéologique. Oui, je crois qu'on peut parler d'hérésie, ou on est entraîné à combattre des hérésies dans la mesure où on veut absolument sauvegarder une idéologie. Si on veut simplement gérer un pays ou une société de façon pragmatique, à ce moment-là, le risque de devenir déviationniste ou d'avoir à condamner des déviationnistes est moins grand.
Merci beaucoup André Vaucher. Merci de maintenir notre esprit en éveil aussi sur notre monde. Je termine en rappelant les références de votre ouvrage pour ceux, et je le souhaite, qui souhaiteraient poursuivre cette exploration du monde médiéval et des tréfonds de l'âme humaine. Les hérétiques au Moyen-Âge, suppôts de Satan ou chrétiens dissidents, aux éditions du CNRS. Merci à tous de votre fidélité et merci encore à vous. Thank you.